Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Alors justement, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio comme tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux ados et à la façon dont on peut, on doit leur parler de sexualité. À l'adolescence, certains ont beaucoup de questions. Faut-il d'ailleurs s'en mêler, les guider ou au contraire les laisser découvrir les choses tout seuls? Faut-il éventuellement évoquer notre propre adolescence et nos propres expériences? Pour en parler, nous recevrons Margot Fried-Fidioza. Elle est sexothérapeute et intervient régulièrement dans les collèges et les lycées pour parler sexualité. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Focus aujourd'hui sur l'orgelé. Savez-vous reconnaître cette petite infection très courante de la paupière? Savez-vous par quoi elle est causée? Et surtout, comment ça se soigne? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, une chronique très pratique. Il sera question d'odorat et de sexualité quand certaines odeurs peuvent perturber les rapports intimes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par cette première question qui nous a été posée par Florence.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. J'ai un tout petit peu de cholestérol, mais mon généraliste en fait me dit qu'en mangeant plus sain, ça devrait s'arranger. Je voulais avoir votre avis docteur et savoir quels aliments je devais éviter et lesquels privilégier. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Bon, votre ami docteur, bien sûr, c'est Jimmy Mohamed. Jimmy, elle nous parle, donc Florence, d'un petit peu de cholestérol. On n'a pas des chiffres précis, mais ça veut dire quoi quand on dit qu'on a un petit peu de cholestérol? Concrètement, il se passe quoi dans nos artères?
Alors déjà, il faut considérer que le cholestérol n'est pas forcément une mauvaise chose. Le cholestérol, c'est un lipide qui est essentiel et qui sert...
Lipide du gras, donc. Hein.
Du gras, mais qui est essentiel au fonctionnement des cellules et qui aide même à la synthèse des hormones, notamment la testostérone. On a besoin de cholestérol pour être en vie. Sauf que vous avez deux types de cholestérol, le bon et le mauvais. Vous avez le bon cholestérol, on appelle ça le HDL cholestérol, qui permet d'envoyer l'excès de gras vers le foie, qui va donc éliminer et épurer l'excès de cholestérol. Et puis vous avez le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, qui lui, au contraire, va développer tout ce que vous allez voir en trop de gras au niveau de vos artères.
Ça bouche.
Ça bouche des artères et donc ça donne des complications cardiovasculaires, comme l'accident vasculaire cérébral ou l'infarctus du myocarde.
Alors, Florence, elle dit qu'elle en a un tout petit peu et que son généraliste, son médecin, lui a dit que ça devrait rentrer dans l'ordre avec une alimentation plus saine. Est-ce que c'est vrai? Ça peut rentrer dans l'ordre comme ça?
Il a raison parce que lorsqu'on parle de cholestérol, il faut qu'on raisonne toujours en facteurs de risque cardiovasculaire. Les objectifs ne sont pas les mêmes si vous avez 30 ans et que vous êtes en bonne santé, c'est-à-dire pas d'hypertension, vous ne fumez pas. Alors que si jamais vous avez 60 ans, vous avez fait un infarctus,
déjà en surpoids,
eh bien on a des objectifs et des critères beaucoup plus stricts, raison pour laquelle on vous donnera plus facilement un traitement en accompagnement évidemment d'un régime. Et donc très souvent, un simple régime peut suffire lorsque vous êtes entre guillemets en bonne santé.
Vous dites régime, mais est-ce qu'il y a des aliments particulièrement à privilégier et d'autres à, je sais pas, on oublie définitivement les burgers, le beurre et l'huile?
Vous n'êtes pas loin. D'une façon générale, il faut limiter son apport global en graisse. Il faudrait que ça représente 30 à 35% de nos calories alors qu'on est aux alentours de 40-42%.
Ou donc vous 50 peut-être même.
Même un peu plus. Essayez de limiter les acides gras saturés qui vont augmenter le mauvais cholestérol. On les trouve essentiellement dans les aliments d'origine animale comme la viande, le fromage, mais aussi dans les viennoiseries, les pâtisseries.
Les produits ultra transformés.
À l'inverse, essayez d'augmenter les acides gras insaturés ou polyinsaturés comme certaines huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de maïs. Vous avez le droit aussi de prendre de l'huile d'olive. Vous pouvez aussi manger des fruits secs, oléagineux ou éventuellement certains poissons. Ça, c'est bien pour lutter contre le mauvais cholestérol.
Très bien, merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Flora. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je voudrais vous appeler parce que j'ai une petite question. Doit-on décaloter les petits garçons? Moi, j'entends pas mal de choses contradictoires et mon pédiatre dit que non pour mon fils de 3 ans, mais ma mère que oui. Qui dois-je croire et quelles sont vos recommandations? Merci beaucoup, au revoir.
Bon, je connais pas votre maman, Flora, mais en général, il vaut mieux croire le docteur, non, je crois, Jimmy. Vous qui êtes médecin, justement. C'est une bonne question, on nous l'a déjà posée, je crois, dans cette émission, parce que c'est vrai qu'il y a eu des changements de mode, on va dire. À une époque, on disait qu'il fallait décaloter les petits garçons, d'autres non. Maintenant, on le fait plus, je crois. Hein.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la peau du prépuce, du bébé, du nouveau-né, c'est la peau qui recouvre l'extrémité du pénis, elle adhère la muqueuse du gland, et ça fait qu'on ne peut pas décaloter naturellement le pénis d'un enfant.
C'est normal.
C'est normal. Sauf qu'il y a des petites adhérences qui, au fil du temps, au fil parfois des érections matinales qu'un enfant peut avoir,
des manipulations,
il va tirer sur son zizi, il va jouer avec quand il est dans la douche, et bien ces adhérences vont petit à petit se rompre, raison pour laquelle on pourra décaloter un enfant un peu plus tard, et c'est normal.
Lui qui va le faire tout seul, en fait.
Il pourra le faire tout seul, donc on ne force pas. Il faut savoir que 4% simplement des nouveau-nés, on peut les décaloter complètement. C'est 50% à 3 ans et c'est 99% des adolescents qui pourraient être décalotés. Donc, il n'y a pas d'urgence à le faire. On ne tire pas dessus, on n'a pas la peine de s'exciter. Surtout que si on le fait brutalement, eh bien, ça va faire mal.
Ça peut saigner
rompre,
même. Hein,
ça va saigner. On va rompre les adhérences de façon brutale, alors que ça va se faire de façon naturelle. On va dire jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne faut pas trop s'inquiéter.
Et si justement ça continue, on peut l'opérer éventuellement si ça reste en adhérence ?
Alors, ça peut perturber la vie sexuelle, notamment au moment de l'adolescence ou de l'âge adulte. Et donc, si vous avez ce qu'on appelle un phimosis, c'est-à-dire qu'il est impossible de se décaloter, eh bien à ce moment-là, on peut faire une intervention chirurgicale, c'est de la circoncision, pour enlever le morceau de prépuce qui gêne. Mais en règle générale, on ne le fait pas du tout chez les petits-enfants. On les laisse tranquilles jusqu'à l'adolescence.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Alors, si vous aussi, comme Flora qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est Margot Fried-Filiosa. Elle est sexothérapeute, spécialiste des questions autour de l'adolescence. Et justement, comment parler de sexualité avec les ados ? C'est notre thème du jour. On y revient très vite, alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, Margot Fried-Filiosa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sexothérapeute et co-auteur avec votre maman Isabelle Filiosa du livre « Sexpérience » qui a été publié chez Robert Laffont et qui vient de sortir aussi en poche sous le titre « Amour, sexe, les réponses aux questions des ados ». Alors aujourd'hui avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite hein, parce que pourquoi finalement quand on est ado, parler de sexe, je sais pas, on en parle déjà en cours de SVT. En SVT ça fait rire mais à la maison on a moins envie d'en parler avec les parents quand même hein.
Bah, c'est sûr, parce que la sexualité, c'est un sujet intime, c'est très personnel. Et puis, on n'a pas forcément envie que papa, maman soient là à surveiller notre premier bisou, ce qui se passe, tout ça. Et puis, il faut se le dire, en SVT, souvent, on parle de reproduction. On ne parle pas toujours
c'est
de sexualité.
J'ai aucun souvenir de sexualité.
Ouais,
on parlait de comment ça fonctionne techniquement.
Exactement. Ouais. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que savoir où se trouve et même ce qu'est une trompe de Fallope, c'est pas particulièrement utile pour
non,
avoir une
tellement.
Première fois réussie et épanouie et dans le consentement et tout ça.
C'est clair.
Il y a quand même une dimension relationnelle, émotionnelle, sociale.
Tout ça,
à
c'est
la
pas
sexualité.
Abordé, abordé
ah non,
SVT,
c'est
ouais.
Les grenouilles et les abeilles. Et
comment on fait des bébés et voilà, Jimmy.
Et puis avec la puberté, le corps change. J'ai le souvenir de ne pas vouloir me montrer vis-à-vis de mes frères ou même mes parents lorsque j'étais adolescent.
Ouais, il y a un âge où on se cache.
Oui, peut-être que j'avais un corps de lâche. Je ne sais pas où est-ce qu'on prend conscience. Ben finalement, qu'on a besoin d'intimité à ce moment-là ?
Les deux sont vrais. Pas parce qu'on a un corps de lâche, mais parce qu'on a un corps différent. En fait, il change tellement d'un coup qu'on se sent un peu bizarre, en fait. C'est d'abord le nez, puis après les pieds, et puis les jambes, puis les torses.
Ah, le nez, enfin, je m'en souviens.
Ça,
c'est vrai, je me souviens
ça grandit dans tous les sens. Et on ne se sent plus à l'aise dans son corps, en fait. Donc souvent, à l'adolescence, on a des complexes. On a aussi juste bah, d'un coup des seins qui arrivent, des hanches qui s'élargissent, un pénis, des poils. Et on a envie bah, de conserver cette intimité. Je pense qu'il y a une partie où on mesure que c'est intime. Mais ça ne veut pas dire que c'est tabou, que c'est honteux, qu'il faudrait le cacher. C'est là où on se mélange un peu les choses souvent. C'est-à-dire on n'en parle pas parce que c'est intime, pas parce que c'est tabou.
Ouais. Est-ce qu'en tant que parent, d'ailleurs, ces modifications physiques, alors vous avez parlé du nez, ça c'est vrai que c'est un peu anecdotique finalement, puis ça s'harmonise en grandissant, je tiens à le préciser, pas chez tout le monde, mais parfois. Alors, est-ce que, en tout cas, les seins qui vont pousser, les poils qui vont arriver, est-ce que c'est des choses, il faut quand même, je sais pas si on pense à en parler à ses enfants, est-ce que c'est important de le dire et à partir de quel âge on leur parle de ces futures modifications ?
Je pense que c'est fondamental d'en parler parce que c'est terrifiant de voir son corps qui change et on comprend pas du tout ce qui se passe. Par exemple, l'exemple vraiment le plus concret et radical, c'est les règles. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui très souvent d'arriver dans des classes de 6e, 5e, même un peu plus âgées parfois, et de me retrouver face à des jeunes filles qui n'ont juste jamais entendu parler des
règles.
C'est
dingue, en 2020.
En 2020, et encore aujourd'hui, ça m'arrive que des jeunes filles me disent « moi, j'ai eu mes règles ». Je ne savais pas ce qui s'est passé, ça m'a terrifiée.
Et ouais, je comprends.
Mais ça veut dire que les parents auraient dû en parler. En fait, il y a un âge à partir duquel on doit dire, bah tiens, je sais pas, à 9 ans, 10 ans, peut-être pas attendre 13 ans, c'est peut-être un peu tard, alors, prévenir des changements éventuels du corps avant que ça arrive.
Oui, la moyenne en France des premières règles, c'est entre 10 et 12 ans. Mais c'est une moyenne, ça veut dire que ça peut arriver à 9 ans. Et on s'y attend jamais. C'est toujours un peu trop tôt pour les parents.
Ans,
d'un coup, les enfants
peur,
qui petite grandissent.
Fille, non, de lui parler de ça, mais bon.
Bah non, parce que c'est
comment
une belle chose, en fait. Je pense que on a tendance à se dire, bah, la sexualité, le corps, on attendra plus tard. Plus tard, plus tard. Mais en fait, c'est des petits, la manière dont on touche leur sexe pour le laver. Est-ce qu'on dit ton tralala ou ta zézette? Non, t'as une vulve, un pénis, on a des vraies parties. Et on peut petit à petit dire, mais en fait, chacun touche ou pas. Enfin, on a le droit de dire non, j'ai pas envie d'être touché là.
Et puis, il y a aussi l'image des réseaux sociaux qu'on peut voir, parfois avec un corps qui est censé être parfait, et puis perturber l'image que notre propre corps peut renvoyer, notamment au moment de l'adolescence, et peut-être leur dire que, attention, les réseaux, c'est pas la vraie vie.
Complètement. Et ça, c'est un phénomène dramatique en ce moment, parce que non seulement il y a les réseaux sociaux où on peut prendre des pauses avantageuses et tout le monde ne se montre qu'à son meilleur, mais en plus, quasiment aucune des images maintenant sont des images naturelles, c'est-à-dire qu'il y a des filtres, elles sont retouchées. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de plus en plus inquiétant de jeunes filles, surtout, mais aussi de jeunes garçons, qui veulent faire des chirurgies esthétiques pour ressembler plus aux photos qu'ils postent d'eux-mêmes sur Instagram.
C'est effrayant, hein, ça aussi, effectivement. Vous disiez donc qu'il faut parler effectivement de ces changements qui vont venir un jour. On leur en parle petit, avant l'adolescence, bien sûr. Et justement, à l'adolescence, il y a aussi un moment où on va découvrir son intimité, la masturbation. Est-ce que ça, c'est un sujet qu'il faut aborder en famille? Enfin, en famille. Je ne dis pas qu'il faut aborder ça au dîner, hein, le soir, avec tous les frères et sœurs au milieu de la table, mais est-ce qu'on doit leur parler de ça ou ils vont le découvrir tout seuls?
Je pense que c'est important de parler de la sexualité et des choses comme ça un peu tout au long de l'enfance et de manière très générale. Moi, je ne suis pas de l'avis de dire ben, « Toi, tu peux te masturber ou il faut que tu fasses ci ou ne fais pas ça. » Mais on parle de la sexualité en général parce qu'il y aura toujours des moments où on regarde un film, où on entend quelque chose à la télé, à la radio et ça pose des questions. L'enfant entend quelque chose et on en parle en tant que sujet de société plutôt que rentrer vraiment forcément dans l'intimité où là, ça va être gênant et peut-être mettre mal à l'aise.
Margot Fried-Fidioza, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer ce point très complet sur l'éducation sexuelle des ados. Comment aborder toutes ces questions-là sans que ce ne soit gênant pour personne? Comment parler plus particulièrement de la première fois avec son enfant qui s'approche peut-être de cette étape? On va vous donner plein de conseils aujourd'hui. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, Margot Fried-Fidioza. Vous êtes sexothérapeute et co-auteur du livre Sexpérience chez Robert Laffont qui vient aussi de sortir en poche sous le titre Amour, sexe, les réponses aux questions des ados. Et c'est notre sujet du jour, comment parler de sexualité avec les ados, les informer sans être non plus trop intrusif. Alors justement, l'attirance amoureuse et sexuelle, ça démarre vers quel âge à l'adolescence? On a toujours, j'imagine bien qu'il n'y a pas de règle, vous n'allez pas me dire à 11 ans et 2 jours, mais chez les filles et chez les garçons par exemple, c'est à peu près au même âge ou pas?
Je ne pourrais pas vous dire parce que c'est vraiment très très personnel. Et puis la manière dont on va vivre l'attirance et l'amour et la sexualité va changer au fur et à mesure. Il y en a qui ont des amoureux à 5 ans,
bien sûr.
Mais ce n'est pas du tout le même genre d'amoureux qu'on a à 13 ans, ni à 19, ni à 40. On va toujours ressentir ce sentiment d'être plus proche de quelqu'un, mais il n'y a pas forcément d'âge.
Mais pourquoi tout d'un coup ça se transforme, en tout cas au-delà des petits amoureux qu'on peut avoir en maternelle ou au primaire, on va dire, mais en attirance sexuelle, en désir, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, c'est hormonal?
Alors oui, tout à fait, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau et dans le corps. Quand on arrive à la puberté, donc le corps change, les hormones se mettent
à bouillonner.
Les garçons ont plus de testostérone, les filles, bah, du coup avec le cycle menstruel, il y a les estrogènes, tout ça qui s'active. On va ressentir plein de choses et plein de nouvelles sensations. Et d'un coup, il y a le désir qui pointe au bout de son nez. Et c'est là où je pense que c'est important de fournir des informations aux adolescents. Parce que d'un coup, il se passe plein de choses dans leur corps qu'ils ne comprennent pas trop, sur lesquelles ils n'ont pas forcément de mots. Par exemple, dans mes interventions, j'ai toute une partie, et dans mon livre aussi, sur la différence entre l'amour et le désir. Parce que quand on ressent plein de trucs, quand on voit quelqu'un, on doit se dire « Ah, je suis amoureux, c'est la personne de ma vie ». Alors qu'en fait, peut-être qu'on ressent juste du désir. Mais quand on ne sait pas vraiment comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, bah, on se mélange.
Bien sûr, Jimmy.
Donc on les informe, est-ce qu'il faut les questionner? Est-ce qu'on doit leur demander? Est-ce que tu aimes quelqu'un? Est-ce que tu as une attirance pour quelqu'un? Ou c'est un truc qui doit rester un peu leur jardin secret et attendre qu'ils nous en parlent avant de s'immiscer dedans?
Je pense que c'est important de respecter en effet le jardin secret, l'intimité de l'enfant. Et plutôt que d'aller questionner, interroger, de créer un espace pour parler. Donc les questions, c'est plutôt parler de l'amour en général déjà. et puis lui dire si tu as envie de me parler de ce qui se passe dans ta vie, je suis là, on peut en discuter. Si tu as des questions, c'est avec plaisir que j'y réponds. Mais moi, je dirais en aucun cas, ah, ça y est, tu as un petit copain, une petite copine, où tu en es, qu'est-ce qui se passe, vous vous êtes embrassé ou pas, parce que c'est intrusif. Et puis en plus, ça donne pas envie d'aller parler à quelqu'un quand quelqu'un on est assailli de questions en plus intimes avec lesquelles nous-mêmes, on n'est pas forcément très au clair.
Est-ce que la question de l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui doit venir sur la table aussi, en tout cas que l'enfant se sente à l'aise avec ça, s'il y avait une orientation sexuelle différente de celle qu'on imaginait peut-être pour lui? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut lui poser la question? Est-ce que peut-être tu ne serais pas homosexuel? Est-ce que ça, c'est des choses qu'il faut demander? Ou est-ce que là, pareil, il faut créer un espace de communication, mais pas intervenir de manière intrusive?
Je pense pareil, créer un espace de communication et dire que c'est OK, que de toute manière, on aimera toujours... Le fait que notre enfant sache qu'il est aimé, ça doit être inconditionnel. Et on peut parler de l'orientation sexuelle de manière générale. Mais je pense qu'aussi avec l'adolescence, on n'a pas besoin de les catégoriser et en tant que parent, lui dire « mais est-ce que toi, tu ne serais pas homosexuel ?» ou
quoi. Bien sûr.
Ça peut même lui mettre des idées dans la tête que peut-être il n'a pas. Ou alors au contraire, « ah bah maman pense que je suis homosexuel, alors je dois être homosexuel, mais en fait, moi, je n'étais pas sûre. » Enfin, qu'est-ce que...
Le laisser tranquillement aller vers ce qu'il a envie.
C'est ça. Et puis, s'il se questionne, on peut réfléchir avec lui. Moi, ma philosophie là-dessus, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de se mettre dans des cases. Si ça fait du bien de se proclamer homosexuel ou bisexuel, bien sûr. Mais si, au contraire, c'est une source de stress, il n'y a pas forcément besoin de...
D'accord. Jimmy ?
Une autre source de stress pour les parents, c'est la première fois des adolescents, de leurs enfants. Souvent, on a peur qu'ils vont prendre des risques un peu particuliers. Est-ce qu'il faut leur mettre un préservatif maladroit dans le sac à dos ou sur la table de chevet en disant « regarde, si jamais tu as besoin, ou est-ce qu'il faut l'aborder différemment ?»
C'est une vraie question que beaucoup de parents se posent. Je pense qu'on peut en effet laisser des préservatifs. Alors, pas dans le sac, parce que ça va se percer, les préservatifs, c'est fragile. C'est pas, faut pas les mettre dans les porte-monnaie, dans les sacs, comme ça. Mais on peut mettre une boîte quelque part qui traîne pour qu'il y ait accès. On peut aussi lui donner le livre. Donc moi, ce que je dis, c'est de donner le livre à partir de 13 ans, au moins, pour qu'il ait les informations, les ressources, qu'il puisse vraiment comprendre. Ce n'est pas forcément des choses comme des préservatifs ou un livre sur la sexualité qu'on va donner en main propre, en mode « voilà, ton éducation sexuelle ». Ça peut être beaucoup plus subtil, en fait. Tout en disant, je suis là si tu as des questions.
D'ailleurs, les préservatifs, bon, on les laisse se traîner, vous avez dit éventuellement, mais il faut encore qu'ils sachent que c'est quand même. Donc, il faut à un moment donné parler de MST, de prévention de MST. Vous avez la technique des 10 options pour en parler, justement. C'est quoi cette technique?
Alors, c'est une super technique. En fait, souvent, quand les ados ont et même les enfants, des questions sur la sexualité, en tant qu'adulte, on a tendance à vouloir expliquer. Et on explique, et on explique, et on explique. Et en fait, ça ne les aide pas vraiment. Et surtout, les adultes sont très stressés, que justement, les comportements à risque, tout ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a besoin de leur fournir des ressources et de les aider à réfléchir. Du coup, on parle d'un sujet de société où on a regardé un film et il s'est passé une scène où ils s'embrassaient, mais il y en a une qui n'était pas sûre, enfin bref. Et on se dit, à la place de cette fille, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Ou quelles sont 10 options qu'elle aurait pu faire pour gérer cette situation? Et dans les 10 options, il y a, on l'embrasse même si on n'a pas très envie. Et il y a, on dit non, on se met à crier, on part en courant, on dit non doucement, enfin... On demande à une amie de venir nous aider, on trouve au moins 10 options. Réaliste, pas réaliste, agréable, pas agréable. L'idée, c'est de muscler la capacité à réfléchir.
De l'enfant,
oui. Ouais, la capacité de l'enfant à réfléchir et à trouver des solutions par lui-même dans les situations.
Très bien, c'est hyper concret et très clair. Merci beaucoup Margot Fried-Filioza. On va faire une courte pause, on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous revient dans un instant. On vous dit tout cet après-midi sur comment parler des questions de sexualité avec vos ados. Et s'il y a un sujet d'inquiétude en la matière ces dernières années, c'est l'accès trop facile à la pornographie. Comment les mettre en garde face à ces images choquantes sur lesquelles ils peuvent parfois tomber dès 10-12 ans? Comment leur expliquer que la sexualité dans la vraie vie, ça n'a rien à voir avec ça? On y revient très vite, alors restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous Margot Fried-Filioza. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, que vous intervenez régulièrement dans les collèges et les lycées pour aborder justement les questions de sexualité avec les jeunes. Alors Margot, sujet qui revient souvent lors de vos interventions, vous nous l'avez confié, c'est la pornographie. Contrairement à ce que l'on pense, les ados, ils cherchent pas à tout prix à regarder un porno la première fois. Le plus souvent, c'est un accident.
C'est vrai. En fait, il faut savoir qu'en France, à 11 ans, un enfant sur trois a déjà vu ou été exposé à un film pornographique. Et ça ne veut pas dire que c'est eux qui sont allés le chercher. c'est souvent des images qui sont non sollicitées, qui vont arriver sur leurs écrans, sur les réseaux sociaux ou en pub, ou alors que les plus grands leur montrent. Et près de 50% en fait, des enfants, des adolescents, disent eux-mêmes qu'ils trouvaient qu'ils étaient trop jeunes lorsqu'ils ont vu de la pornographie pour la première fois.
Bah 11 ans, clairement, je pense que c'est trop jeune.
Jimmy. Oui, parce que ça peut être vécu quasiment comme un film d'horreur. On voit des corps, des trucs bizarres, des cris. Donc on n'est pas en mesure de décoder, de comprendre ce qui se passe quand on a, je sais pas, 9 ans ou même 10 ans peut-être.
Exactement. C'est choquant en fait. Il y a un certain phénomène de dégoût. Ça choque, c'est bizarre. Et c'est là où c'est insidieux, parce que quand on est choqué, dégoûté, qu'on n'arrive pas à faire sens de ce qui se passe, notre cerveau a besoin de voir à nouveau pour faire du sens. Et du coup, on voit des images, elles ne nous plaisent pas, on ne comprend pas, c'est bizarre, ça nous met mal à l'aise. On a besoin de re-regarder pour comprendre, pour assimiler, pour donner du sens. Et du coup, on re-regarde, et on re-regarde, et on re-regarde. Et en fait, au fur et à mesure qu'on regarde, notre cerveau s'habitue, et les chemins du système du plaisir dans notre cerveau vont être modifiés. Je me souviens d'un témoignage d'un petit garçon de 10 ans qui disait que la première fois qu'il a vu du porno, il a été choqué, ça l'a dégoûté. Puis il a continué à regarder. Et après, il me dit, mais en fait, maintenant, j'aime bien, ça m'excite, c'est super chouette.
Ah ouais, ça fait peur.
Ça fait peur.
Ouais. Justement, normalement, sur les tablettes, les écrans qu'ils ont, alors au moins à la maison, j'espère, il y a un contrôle parental, on peut le mettre en place. Ça ne suffit pas pour leur éviter d'avoir accès, de tomber sur ça, malheureusement?
Alors, contrôle parental, je pense que c'est bien dans le sens, pas pour contrôler, parce qu'on ne peut pas imaginer contrôler. Contrôler un ado, déjà, essayer, bonne chance, ça ne va pas marcher, et puis c'est contre-productif. Pour moi, c'est plutôt une protection contre les contenus indésirés. Et dans ce sens-là, ça a quand même une certaine limite où ça filtre un petit peu. Après, on ne peut pas combattre, on ne peut pas empêcher que son enfant ou son adolescent soit exposé à des images. À partir du moment où ils ont été exposés, où on pense qu'ils vont peut-être être exposés dans le futur à des images, on a besoin de leur fournir des ressources, des informations.
Et les ressources, c'est leur expliquer par exemple que tout ça... C'est truqué, comme vous prenez souvent l'exemple, je crois, des films d'aventure américains, action. Qu'est-ce qu'on peut leur expliquer comme ça?
C'est comme au cinéma, où en fait, si on voit l'acteur sauter du 5e étage d'un bâtiment, se rattraper à un lampadaire, rebondir sur une poubelle et sortir sans égratignure, on ne se dit pas « je vais faire pareil pour impressionner ma copine ». Non, on sait très bien que ça ne va pas bien se passer. Mais dans la pornographie, ça a l'air d'être presque comme la réalité. Du coup, c'est important de leur expliquer les trucages. Et aussi d'autre part, de leur parler d'une sexualité saine et épanouie. Ma philosophie, c'est vraiment de soutenir l'épanouissement plutôt que d'essayer de combattre les violences, les images, les comportements à risque. Parce que c'est plus agréable, en fait, d'avoir une sexualité dans laquelle on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent respecté, que d'essayer de se conformer.
Et justement, parce que quand on parle d'épanouissement, est-ce que dans les collèges où vous intervenez, vous avez parfois des jeunes qui vont être complexés par, je sais pas, la taille du pénis qu'ils ont pu observer dans un film pornographique, ou la taille des seins, parce que finalement, derrière, ce n'est pas la vraie réalité, en tout cas pas la réalité qui les concerne eux en ce moment.
Complètement. En face de moi, j'ai vraiment des adolescents qui sont stressés par rapport à leur corps et aussi par rapport à tout ce qu'ils ont l'impression qu'ils vont devoir faire. Je me souviens d'un garçon de 15 ans qui m'écrit, donc ils m'écrivent tous sur un papier anonymement toutes leurs questions avant l'intervention, et qui m'écrit « Je crois que je ne suis pas prêt, j'ai peur de tout ce que je vais devoir lui faire ».
Ah oui.
Mais j'ai aussi beaucoup de questions sur moi, quand j'éjacule, ça coule et c'est un petit peu, mais je crois que je suis pas normale. Est-ce que je suis vraiment assez un homme?
Il y en a beaucoup plus dans les films, quoi. C'est ça qu'ils veulent dire.
C'est ça. Et c'est là où on a besoin de comprendre les trucages et de leur donner les ressources. Et vraiment,
vous lui répondez quoi à cette question, justement?
Je réponds qu'une éjaculation normale, c'est 3 à 6 millilitres, l'équivalent d'une cuillère à café. Ce n'est pas un demi-litre comme dans le porno. Il n'y a pas des seaux qui sortent.
C'est concret, c'est pratique et ça rassure, je pense.
C'est ça, c'est exactement ça. Concret, pratique, scientifiquement correct et rassurant. Et c'est vraiment ça, le message que je donne et les informations. On a besoin de comprendre et d'avoir de vraies informations.
Margot, pour terminer sur le porno, finalement, le credo, c'est quoi à la maison? Si on interdit complètement l'accès, on leur dit ne regarde pas ça puisque c'est des films et que ça ne sert à rien. Enfin, c'est quoi le positionnement des parents vis-à-vis du porno, finalement?
Je pense qu'interdire, c'est voué à l'échec. Parce qu'en plus, un ado à qui on interdit quelque chose, il a envie de le faire.
Parce qu'il
se dit, mais il y a un truc caché derrière. Je pense que c'est sensibiliser au fait que ce n'est pas des images qui font du bien. souvent, la question que je pose, c'est à votre avis, est-ce que le porno, donc quand je suis dans les classes, je dis à votre avis, est-ce que le porno, ça augmente l'imagination ou ça la diminue? Et tous me disent, ça l'augmente. Moi, je dis non, ça la diminue. Parce que en fait, les images que vous allez avoir, c'est pas vous qui y avez pensé. Ça imprime des choses dans vos cerveaux que vous n'avez pas mis là vous-même. Mmh. Et du coup, vous êtes là comme des petits robots à essayer de reproduire les mêmes choses. Moi, je pense qu'à ces enfants, il faut dire les images que tu risques de rencontrer ou peut-être à déjà rencontrer sur Internet, ce n'est pas des images de sexualité, ce n'est pas des images de sexe qui font du bien au cœur, à la relation. Ce n'est pas ça que les filles ou les garçons ont vraiment envie. Tu risques d'en croiser. Je ne te le conseille pas parce que ça ne fait pas du bien au cœur.
Ouais, mais je ne te l'interdis pas, en tout cas.
On ne peut pas interdire quoi que ce soit. C'est même interdire de fumer, interdire de... On n'a pas le contrôle sur les enfants. On peut leur dire ce que ça leur fait. On peut leur dire notre ressenti. Moi, je pense que ce n'est pas des images qui font du bien. Et je t'invite à ne pas en regarder.
Jimmy, une dernière question.
Et du coup, on ne les flique pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder dans l'historique pour savoir si son ado de 15 ans a consulté deux ou trois fois dans la semaine la pornographie sur Internet. On ne va pas à la pêche de l'information. Mais ça veut dire qu'on ne fait pas l'autruche non plus ou c'est compliqué.
Je pense qu'il y a une juste limite entre savoir. Parce que après, s'il en regarde tout le temps et que peut-être ça devient compulsif, c'est quelque chose de plus en plus courant, la masturbation compulsive chez les adolescents, du fait de ce phénomène de ça découle, on a besoin de re-regarder. Mais aussi, ça souligne une souffrance sous-jacente. Et donc, je pense que si on se pose des questions sur est-ce que mon ado va bien? Est-ce que ça se passe bien pour lui? Comment est-ce qu'il se développe dans sa sexualité? On lui en parle un peu, mais surtout, on l'oriente vers un professionnel. Donc, un psychologue pour enfants qui est formé, un sexothérapeute ou une structure d'accueil. On va lui offrir un endroit où il peut parler à une personne tierce, où il n'y a pas de conséquences, parce que parler de sexualité, de dire à papa, maman, j'ai été voir des sites porno, est-ce que je vais être punie, qu'est-ce qui va se passer,
c'est pas évident.
Ça met beaucoup d'enjeux. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin de ne pas faire l'autruche, d'être là pour nos ados, de leur fournir des ressources, en partie nous, de répondre à leurs questions, de parler de ces sujets, mais aussi vraiment, c'est important de leur donner des professionnels avec qui parler.
Merci beaucoup Margot Fridfield-Yoza d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur la façon dont on doit aborder ces questions de sexualité avec les ados. Et puis bien sûr, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, coécrit avec Isabelle Fridfield-Yoza, votre maman, Sexpérience, publié chez Robert Laffont, qui vient donc de sortir en poche également sous le titre Amour, sexe, les réponses aux questions des ados. Merci beaucoup. Europe 1. Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Focus aujourd'hui sur l'or gelé. Savez-vous reconnaître cette petite infection très courante de la paupière? Savez-vous par quoi elle est causée? Et surtout, comment ça se soigne? Nous ferons le point. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi et il est temps, à présent, de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'or gelé. Peut-être avez-vous déjà eu cette petite infection de la paupière. D'ailleurs, savez-vous par quoi elle est causée? Si c'est contagieux et surtout, comment ça se traite? Benjamin Lévesque, notre reporter, a été tester vos connaissances sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Une espèce de boule au niveau de la paupière et du coup c'est très très gênant et ça fait mal.
Alors l'or gelé, ça me parle?
Bah, à mon avis, soit quelque chose dans l'œil qui du coup s'infecte ou mauvaise hygiène des mains et on se touche les yeux tout le temps. Donc,
C'est un gonflement au niveau de l'œil, après dû à quoi je sais plus forcément. Pareil, bactéries, infection.
Une sorte de gonflement quelque part, une sorte de bouton, un truc comme ça. Fais pas forcément attention à ce qu'on touche, on peut le refiler à quelqu'un juste après. C'est assez proche de la conjonctivite pour moi.
Des gouttes à mettre dans l'œil et puis une pommade aussi. Je sais que mon copain m'avait donné une pommade pour faire passer la chose juste au-dessus de la paupière.
Alors Jimmy, dans ce micro-trottoir, on a entendu un peu de tout. Certains parlent d'or gelé, de conjonctivite en même temps. C'est pas la même chose, je crois, or gelé et conjonctivite. Hein.
Non, il y a de l'idée. C'est au niveau des yeux.
Oui, ça c'est bien déjà.
C'est déjà ça. Ouais. Alors l'or gelé, c'est une infection qui est bactérienne, qui est très fréquente, qui n'est pas grave du tout et qui est liée à l'infection de la paupière, mais une zone particulière au niveau du cil, mais surtout au niveau de sa zone d'implantation qu'on appelle le follicule pilosébacé. Je pense que vous rêvez de savoir ce que c'est.
C'est quoi? Dites-moi, j'en peux plus là.
Et ben, le follicule pilosébacé, c'est très simple. Vous avez un poil qui est dans une racine ou un petit sac auquel vous avez une glande qui va être annexée. Cette glande va produire du sébum et vous avez aussi un muscle qu'on appelle le muscle horripilateur.
Vous avez sorti tous les grands mots là aujourd'hui.
Exactement.
Hein,
mais ce muscle horripilateur redresse le poil lorsqu'il se contracte.
Bon, on a bien compris où ça se situe, l'or gelé. Il apparaît brutalement, je crois, et ça ressemble à quoi concrètement, pour ne pas confondre avec d'autres trucs éventuellement.
Ah, Mélanie, votre connaissance m'impressionne de jour en jour. Alors, vous avez raison, l'or gelé, ça arrive assez brutalement. C'est lorsque vous avez une infection bactérienne, souvent un petit staphylocoque au niveau du cil, et ça provoque une petite inflammation, une petite tuméfaction autour de la racine du cil, sur le bord de la paupière. Et puis, ça va se développer avec de la taille d'un grain d'orge, d'où le nom d'orgelet.
Ben voilà, c'est
oui, comme Stéphane Bern, je vous explique l'histoire de chaque pathologie.
L'orgelet vient du grain d'orge, ok.
Exactement.
Parfait, c'est bien.
Et donc, vous avez cette infection sur le bord libre de la paupière. C'est d'abord rouge, c'est chaud, et puis c'est douloureux. Et la paupière va gonfler localement. Et parfois, vous pouvez apercevoir une petite pointe blanche remplie de pus. Ce n'est pas très agréable. Je vous déconseille d'y goûter. Mais c'est lié à l'inflammation, à l'infection et donc à l'orgelet.
Bon, je crois que par contre, il faut faire attention, ne pas confondre l'orgelet et chalazion. Expliquez-nous la différence.
Chalazion ou calasion, je ne sais pas.
Ah,
comme
sais
le
pas
Covid ou la
dit,
Covid.
Ouais.
Moi,
ouais.
je dis un calasion.
Un calasion. Moi, j'avais envie de dire chalazion, mais peut-être je me trompe. Allez-y.
Mais c'est plus joli, calasion. Alors,
d'accord.
En tout cas, le principe est le même. C'est de l'infection. Rappelez-vous, l'orgelet, je vous ai dit, c'est l'infection qui est centrée sur un cil, alors que le calasion, lui, c'est lié à une glande qui va s'inflammer. Vous avez des glandes qui permettent de sécréter des produits un peu gras qui vont se mêler aux larmes pour lubrifier la surface de l'œil. Et donc, vous avez cette glande qui, parfois, va grossir, s'enquister, devenir un peu inflammatoire et donner une douleur. Mais ça ne se traite absolument pas de la même façon. Le calasion, le chalasion, lui, doit être traité chirurgicalement.
Oui.
L'ophtalmo fait une petite incision et vous débarrasse de ça. Inutile de vouloir mettre des pommades ou des crèmes, ça
D'accord.
ne sert pas à grand-chose.
Donc, ce ne serait pas du tout de la même façon. On vient quand même à notre sujet du jour, l'orgelet, qui n'est pas grave, certes, mais si ça soigne, comment? Et ça, assez simplement, je crois.
Oui, il suffit des soins locaux de
D'hygiène,
base.
Quoi.
La première, c'est évidemment éviter d'y toucher, parce qu'à ce moment-là, vous allez peut-être disséminer un peu de staphylocoque un peu partout. Ne frottez pas, essayez pas de percer la petite boule de pus que vous avez. Lavez-vous les mains donc régulièrement. Nettoyez les paupières plusieurs fois par jour avec du sérum physiologique. Vous pouvez, lorsque c'est très douloureux, imbiber une compresse avec de l'eau chaude, ça va entraîner une petite vasodilatation
et soulager un peu
les paupières. N'hésitez pas, lorsque ça ne s'améliore pas avec un petit collyre antiseptique, d'aller voir votre médecin, parce que parfois, il est nécessaire d'avoir une pommade antibiotique qui permet, dans l'immense majorité des cas, de régler le problème en quelques jours. Et donc, bien souvent, il faut quand même passer par la case médecin, puisqu'il vous donne une petite pommade qui n'est pas disponible chez le pharmacien. N'hésitez pas à leur demander. D'ailleurs, ils sont souvent très bons conseils. Ils peuvent vous dire quand est-ce qu'il est temps d'aller consulter.
J'imagine qu'on ne met pas de lentilles non plus à cette période-là. On ne se maquille pas non plus pendant quelques jours.
Exactement.
Que ça passe.
On laisse l'œil respirer le temps que ça passe et ensuite on peut retrouver nos bonnes habitudes.
Juste un petit mot, l'or des grands-mères, là, on me disait, mais une bague en or, frotte dessus. Ça, non, ça ne marche pas, j'imagine.
L'or, c'est mieux au doigt, c'est plus joli, mais si vous voulez, c'est pas forcément l'idée.
Il n'y a pas de preuve
scientifique. Mais mettez pas en dessous du 18 carats, ça n'a aucun intérêt. Que de l'or de qualité, sinon ça ne sert à rien.
Très bien, merci Jimmy pour toutes ces précisions d'orfèvre, évidemment. Merci.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo de Catherine Blanc. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question de Céline que Jimmy va vous lire.
J'ai rencontré récemment un garçon qui me plaît énormément, tant sur le plan intellectuel que physique. Le souci, c'est que l'autre soir, nous avons enfin dormi ensemble et je ne supporte pas son odeur corporelle. Comment surmonter cet obstacle ? Bon, Catherine, d'une façon générale, c'est normal d'être bloqué au
sensible.
Lit si jamais il y a une odeur corporelle. Ça fait partie
je sais pas, imaginez,
de la sexualité.
Si on trouve que quelqu'un pue, on n'a pas envie. Hein,
voilà, la question est réglée. Merci à Mélanie Gomez.
Mais non, là, il ne parle pas de puanteur. Il dit une odeur qui me dérange. Voilà.
Bah, d'abord, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est son odeur corporelle ?
C'est pas précisé.
Voilà, donc si c'est ponctuel, on ne fait pas un drame, mais ça ne nécessite pas une question à Catherine Blanc.
S'il sort du sport, bon, c'est normal. Quoi.
Parce que là, on parle de quel type d'odeur ? Parce que la transpiration, c'est normal d'avoir été un peu...
Bah ouais.
C'est pas bon la transpiration. La mauvaise haleine aussi. Si les parties génitales ne sont pas très propres aussi, bon, bah, on peut comprendre. Mais
non, là, c'est son odeur à lui.
Est-ce que vraiment on peut être... perturbé par une odeur corporelle ?
Bah, si on est vraiment perturbé par l'odeur corporelle de l'autre, a priori, on n'a pas fait grand-chose avec l'autre parce qu'on s'est vite arrêté. Donc, on se demande pourquoi ces deux personnes se retrouvent dans un même lit parce que ce n'est pas une découverte.
Parce qu'au départ, on ne l'avait pas senti de près, donc ça peut être le hasard en arrivant.
Il ne me semble pas qu'on passe de la bonne distance à tout d'un coup être dans le même lit. Je crois que fondamentalement, on s'est un peu approché, un peu touché, peut-être embrassé, un peu caressé. Donc, quand on se retrouve dans le même lit, a priori, on a déjà senti l'autre, dans senti au sens de la relation, mais aussi au sens...
Parce qu'on a tous une odeur, on est d'accord.
Mais bien sûr que nous avons tous une odeur. Et quand on s'embrasse, notamment quand on s'embrasse, on souffle, on inspire, on met de la chaleur. Donc les odeurs d'haleine, les odeurs de peau ressortent particulièrement fortement. Les odeurs de parfum chauffées par l'haleine et nos souffles et nos ébats. Donc ce n'est pas une odeur nouvelle. Si on la découvre dans un lit tout d'un coup, c'est que où on avait un vêtement qui acrylique qui fait que l'odeur est particulièrement acide ponctuellement, et c'est une histoire que ponctuelle, ou alors j'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Ou alors c'est tout simplement on ne peut pas sentir l'autre au sens psychologique du terme, et finalement partager son lit, il faut c'est pénible, et du coup il faut l'éloigner absolument, et là tout d'un coup c'est une histoire d'odeur.
Parce oui, donc il y a peut-être un autre blocage, mais si jamais on perçoit une odeur un peu dérangeante, est-ce qu'il faut le dire? Parce que c'est souvent difficile, déjà dans les relations sociales et amicales, de dire à quelqu'un « tu as mauvaise haleine ». Alors on porte des masques, ça arrange tout le monde, mais dans l'intimité, dire « écoute, je suis un peu gêné par ton odeur, quelle qu'elle soit », c'est compliqué.
Oui, on peut le faire avec humour. Alors évidemment, quand on se connaît un peu plus, dire « chouchou, tu ne veux pas prendre une douche », c'est évidemment beaucoup plus facile.
Au début, c'est plus délicat.
Mais on peut se dire « waouh, on s'est un peu emballé là ». On peut avoir une façon de dire ça sent les vestiaires, on va se doucher,
oui.
On peut se mettre
Annie,
tous les
pas de pincettes vous pour dire à
quelqu'un, à mon mari, ils sont
mari,
non, mais ils sont toujours bons, moi j'ai de la chance,
c'est pour ça, ouais.
Voilà,
c'est ça.
Non mais on peut le dire en se disant oh là là, moi je sens que je sens fort, je vais aller me doucher, tu viens, on va se doucher, on commence nos ébats sous la douche. On peut vraiment le faire de façon légère.
Moi j'ai la sensation quand même que Céline ne parle pas de quelque chose de ponctuel, qu'elle parle d'une odeur naturelle de cette personne qui finalement le dérange. Alors est-ce qu'elle va s'y faire, est-ce que on est attiré par l'odeur justement de l'autre ou pas?
Je crois
l'odeur naturelle, je veux dire.
Oui, je pense que nous nous sentons comme des animaux. Alors après, on n'a pas un flair aussi développé que les animaux, mais nous nous sentons vraiment, et comme nous nous sentons bien l'un avec l'autre, ces mots flirtent aussi bien au sens affectif, au sens de reconnaissance, où nous ne pouvons plus nous sentir. Je ne peux pas le piffrer. C'est-à-dire que ce sont vraiment des expressions qui rendent compte d'une sorte de distance épidermique. Ce que j'ai du mal à comprendre dans cette question, c'est comment il pourrait y avoir une entente parfaite s'il n'y a pas... C'est une entente intellectuelle et affective, certes, mais pas une entente charnelle. C'est pour cela que dans le lit, ça ne peut pas se faire.
Donc, quand vous attendez, Catherine, les carottes sont cuites, quoi. Il n'y a plus qu'à
c'est
séparer.
Hein.
Bah oui, c'est clair. Parce que
si c'est vraiment.
Alors, si elle ne peut pas le piffrer, comme vous dites.
Voilà, je pense qu'il faut réfléchir si ce n'est pas une question tout à fait psychologique où, dans les faits, on n'aime pas l'autre. Il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre et du coup, l'odeur en est une occasion. Si ça, tel n'est pas le cas, il faut résoudre le problème, soit par la douche, soit c'est une question d'alimentation, c'est une question de microbiote. Là, c'est encore autre chose. Et quand on aime les gens, on les accompagne pour se guérir, tout simplement. Parce que ça, c'est assez invalidant, pas que pour la relation, pour les relations en général.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, Mélanie, l'histoire ni d'espions. Vous verrez que l'histoire est peuplée d'espions, à commencer par la plus célèbre d'entre toutes.
Bah oui, Matari, la belle sulfureuse qui a été condamnée pour intelligence avec l'ennemi. Ensuite, on parlera de Ian Fleming, le père de James Bond, 007. Et vous avez choisi qui comme...
Comme vous nous parlez d'espions du temps jadis, moi je vous parlais d'un espion, un vrai, qui nous espionne tous. Et en plus, on est consentant.
C'est qui?
Mark Zuckerberg, le patron de Facebook.
Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi surtout, restez sur Europe 1.